La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume. Sa photo est à la une ce matin de toute la presse britannique. L'homme arrêté par la police après avoir foncé à bord d'une camionnette contre des fidèles musulmans près de la mosquée de Finsbury Park à Londres se nomme Darren Osborne, à 47 ans, ce père de 4 enfants sans emploi, s'était récemment séparé de sa conjointe et la révélation de son identité par les médias hier a visiblement troublé nombre d'habitants dans son quartier de Pentwyn au nord de Cardiff. J'étais encore dans sa cuisine la veille. Je chantais avec ses enfants et quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit « c'est impossible, il paraissait si poli et agréable », raconte notamment l'un d'entre eux qui habite la maison voisine. Interrogé sur ITV News, sa mère le décrit, elle, comme une personne dérangée qui depuis longtemps déjà prenait des médicaments pour des problèmes de santé mentale, mais précise-t-elle, il n'était pas raciste. Et pourtant, les témoins de la scène dans la nuit de dimanche à lundi racontent tous l'avoir entendu crier « je veux tuer tous les musulmans ». Comme souvent après ce genre de tragédie, dit, les témoignages à présent se multiplient donc jusqu'à se contredire les uns les autres. Quoi qu'il en soit, précise ce matin The Guardian, ce dernier attentat, le quatrième en moins de 3 mois au Royaume-Uni, ne doit pas nous faire oublier l'islamophobie à laquelle sont aujourd'hui confrontés dans notre pays nombre de musulmans au quotidien et le journal d'en conclure que la terreur, qu'elle soit motivée pour des raisons religieuses ou politiques, ne vise toujours qu'un seul but, diviser. À ce titre d'ailleurs, on notera que très vite certains médias dont The Daily Mail ont jugé bon de rappeler que la mosquée de Finsbury Park où s'est produit l'attaque était connue au début des années 2000 pour être un haut lieu des militants islamistes de Londres qui venaient écouter les prêches enflammés d'un certain Abu Hamza, sauf que depuis la direction de la mosquée a changé. Et en l'occurrence, les nouveaux dirigeants de ce lieu de culte ont juré de combattre toute forme d'extrémisme. Que des médias traditionnels tiennent les victimes pour responsables est dégoûtant. La mosquée de Finsbury Park a gagné une distinction pour son combat contre l'extrémisme. Voilà notamment comment l'auteur de la saga Harry Potter répond aujourd'hui à ceux qui exhument le passé controversé de la mosquée. C'est aussi la raison pour laquelle The Guardian, toujours lui, a décidé de raconter dans ses colonnes la véritable histoire de ce quartier de Finsbury Park, le lieu du d'une stupéfiante variété de nationalités habitées par des personnes de tous horizons, avec en particulier une vraie classe ouvrière où autrefois les immigrants irlandais ont imposé leur marque et laissé notamment derrière eux un bon nombre de pubs. En plus d'être connu pour héberger le club d'Arsenal, c'est aussi dans ce quartier, rappelle toujours le journal, en face de la mosquée visée que se trouvait le Rainbow Theatre, au lieu du rock qui a accueilli quelques-uns des plus grands noms de la musique, The Who, Pink Floyd, David Bowie, Bob Marley, avant qu'il ne soit transformé en église pentecôtiste. Voici donc ce qu'est vraiment Finsbury Park, conclut le journal, l'un des quartiers les plus cosmopolite et important de la capitale anglaise.
Et en Allemagne, à présent Thomas, le pays n'en finit plus, lui, de pleurer la disparition d'Helmut Kohl.
Oui, depuis vendredi, la presse, comme ici la Süddeutsche Zeitung, ne manque pas de superlatifs pour rappeler qui était Helmut Kohl, le pouvoir allemand, écrit le journal de Munich, et puis parce que déjà de son vivant, Helmut Kohl était entré au panthéon de l'histoire en tant que chancelier de la réunification, architecte de l'Union européenne, mais aussi redoutable tacticien à la tête de son parti. Comme beaucoup de politiciens, il avait conservé chez lui quantité de documents concernant directement ou indirectement son activité en tant que chancelier. Autant de photos, de notices, de lettres, d'agendas et autres documents encore qui, après son décès, éveillent désormais toutes sortes de convoitises. Car contrairement aux archives officielles de la chancellerie, frappées d'un embargo de 30 ans, conservées dans les archives fédérales, gérées par des archivistes professionnels, il n'existe en effet pas de règles concernant les archives privé des personnalités allemandes. Et c'est ainsi, par exemple, que celles d'ex-chanceliers tels que Adenauer, Brandt ou Schmidt sont aujourd'hui gérées par des fondations ad hoc financées par l'État fédéral. Alors au sein de la CDU, plusieurs voix se sont déjà élevées pour réclamer la création d'une fondation Kohl qui gérerait cet héritage, sauf qu'aucune décision ne pourra être prise sans l'accord de la veuve du chancelier, sans oublier ses deux fils nés d'un premier mariage, de sorte que le conflit paraît à présent inévitable, écrit la correspondante du Temps, et pourrait rapidement tourner à la foire d'empoigne.
Enfin, nous l'évoquions tout à l'heure dans la question du jour, c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés, tandis que certaines organisations humanitaires opérant en Méditerranée sont accusé en Italie donc de collusion avec les trafiquants d'êtres humains, la presse souligne également que la mafia pourrait être impliquée dans l'aide aux réfugiés.
Oui, des réseaux mafieux italiens auraient infiltré des structures d'assistance aux migrants. Récemment, 68 membres présumés d'un clan influent de la mafia calabraise ont été arrêtés, accusés d'avoir noyauté un centre d'accueil et détourné au moins 32 millions d'euros de fonds européens. Le genre de nouvelles qui confirme les préjugés vis-à-vis de notre pays, peste notamment la Stampa. Aujourd'hui, écrit le journal, nos partenaires européens Européens sont convaincus que l'Italie ne fait non seulement que se lamenter en réclamant toujours davantage de fonds pour venir en aide aux migrants, mais pire encore, tricher en empochant le pactole et en confiant le sale travail à la mafia et aux escrocs. Ou dit autrement, quand l'Italie promet davantage de contrôle, elle ne fait au contraire qu'ouvrir les vannes, et quand elle réclame des sommes élevées, celles-ci finissent par disparaître ou être dérobées. Tout cela, déplore à son tour de Télégraphe, démontre aujourd'hui de façon douloureuse combien l'émigration vers l'Europe est devenue à présent une affaire à la fois cynique et juteuse.